Comment s'identifier à un serveur avec un mot de passe? Pourquoi? Parce que quand on se connecte à votre banque, à votre compte espace client chez un opérateur, à n'importe quel site internet, c'est comme si vous vous connectez à un serveur. Et ça passe par un mot de passe. Et ce mot de passe peut être utilisé notamment pour le chiffrement. Mais il faut encore que ce mot de passe ait un certain niveau. Donc, on va démarrer par une règle très simple concernant les mots de passe. Plus c'est long, plus c'est bon. Merci Xavier pour la référence. Donc, plus un mot de passe est long, plus ce mot de passe est long, plus il sera difficile pour le déchiffrement. Ben justement, c'est pas 4 caractères, ça peut être beaucoup plus. Et en l'occurrence, la règle actuelle, c'est qu'il faut au minimum 8 caractères dans votre mot de passe. Idéalement, il faudrait mettre 12 caractères. Idéalement. C'est bon, ça a été mis à jour, ça, parce qu'il y a quelques années. Voilà. Alors, idéalement aussi, il faut que ça soit des caractères divers, c'est-à-dire vous avez majuscules, minuscules avec nos lettres latines, vous avez les chiffres en arabe, vous avez également les caractères spéciaux, pourcent, point, point virgule, on peut utiliser pourcent et autres, mais également des caractères, on va dire, d'autres écritures, ça peut être l'hindou, ça peut être le japonais, ça peut être l'arabe, ça peut être beaucoup. Si le système vous le propose, faites-le, parce que ça complique encore plus le travail d'essayer de décrypter votre mot de passe. Dans la salle, là, qui a un mot de passe de moins de 6 caractères? À part chez les... Il y en a qui connaissent la réponse. Et oui, il existe. Vous avez un mot de passe, même deux mots de passe, qui contiennent moins de 6 caractères. Vous avez la carte bleue, mais vous avez aussi le code PIN pour vos téléphones. Et oui, il contient 4 caractères et 4 chiffres. Ah, il y en a qui dit non. Dans l'assistance, là, je l'ai juste là en face. Et pourquoi non? Sur la carte SIM. Non, mais sur la carte SIM, normalement, t'as le code PIN qui est 4 caractères. Pour ça, on peut demander à sa banque d'augmenter le code PIN de 4 à 8 caractères. Mais ça dépend des banques et surtout de leur bon vouloir. Alors, il y a malheureusement un corollaire à la loi de Moore. Pour la loi de Moore, c'est qu'en fait, tous les 10 ans, la puissance de calcul est augmentée. Et malheureusement, dans 10 ans, la règle qu'on vient d'édicter sera considérée comme faible. C'est-à-dire qu'il faudra encore augmenter le nombre de caractères, il faudra encore augmenter le nombre de types de caractères. Face à la loi de Moore, alors il y a des solutions. Ralentir par le calcul et la comparaison avec un H. En fait, le H, c'est un fichier, en fait, c'est une partie de votre mot de passe qui est déjà chiffré, et en fait, on compare ces deux éléments. C'est une sorte d'empreinte de votre mot de passe. Alors, on peut aussi, c'est justement une des solutions qui est utilisée par la carte bleue ou par la carte SIM, c'est que on limite le nombre d'essais. Ben oui, vous avez droit qu'à 3 essais. La plupart du temps, voire un peu plus, ça évite que l'autre essaye toutes les combinaisons possibles et au bout d'un moment, c'est sûr, il va trouver votre mot de passe. Un élément très important, c'est justement de différencier les mots de passe par site. Alors, pour certains, ça paraît difficile parce que avoir un mot de passe par site, et on s'en souvient jamais de tous. Mais à ce moment-là, on peut. Par contre. C'est vraiment important à ce que vous ayez un mot de passe différent. Pourquoi? Parce que si un des sites est hacké, ou au moins on lui a volé sa base de données, et que malheureusement les mots de passe sont déjà en clair, ils pourront tester sur les autres sites et voir si le mot de passe est possible, et donc accéder à beaucoup plus d'informations que juste leur première attaque. Le changer régulièrement, alors par contre là j'ai du mal à conseiller pour changer le mot de passe régulièrement,
Je dois dire, j'ai vu tout récemment, c'est la société Shell qui a fait faire des affiches, ils les ont fait mettre dans toutes leurs administrations, dans tous leurs bureaux. Cette affiche est superbe, vous avez un slip. Votre mot de passe, c'est un slip. Vous le changez régulièrement, vous le montrez pas à la vue de tout le monde, et vous le passez pas au tiers.
Alors, une autre solution qui a justement été mise en place par les banques, c'est la double authentification. C'est-à-dire, on fait une première authentification par juste le coup habituel adresse mail, mot de passe, et ensuite on va recevoir par SMS, par mail ou par d'autres solutions un deuxième code que l'on va utiliser. pour vraiment s'authentifier. Du coup, par exemple, le cas de double authentification qu'on peut avoir, c'est justement sur un paiement sur Internet, on peut avoir on rentre nos identifiants de carte bleue et autres, et on va recevoir plus tard par SMS un nouveau code qui va confirmer notre achat. C'est mis de plus en plus sur les cartes bleues. J'ai d'autres exemples, et là ça va être un peu plus jeu vidéo. Il existe chez l'éditeur Blizzard, ils ont mis en place une double authentification avec une application sur smartphone. On se connecte une première fois sur leur jeu et on dit via notre smartphone si on se connecte ou pas. C'est comme ça, c'est d'autres méthodes de double authentification. Alors, il y a malheureusement de fausses bonnes solutions. Ben oui. Là, je vous ai donné des trucs, mais il y a malheureusement des sites qui ont une bonne idée, mais qui va finalement se révéler un peu mauvaise. Alors, déjà, il y a une chose, c'est la biométrie. Eh oui. J'ai un iPhone, j'utilise Touch ID avec mon doigt. Ouais, c'est génial. Seulement, on peut me piquer mon téléphone et partir avec mon doigt et l'utiliser pour accéder au téléphone, au compte, au logiciel de banque que j'ai sur mon doigt. C'est génial. Et en ce moment, il y a des constructeurs qui proposent de le faire avec notre visage, avec nos yeux. Même problème. Rien n'empêche de prendre l'œil, quoi. Se connecter via Facebook, Google, Twitter, Microsoft, j'en passe des meilleurs. Vous trouvez très souvent ce genre de solution. Le problème, c'est que ça lie vraiment votre compte de site tiers à ces comptes-là. Donc, si le compte Facebook est compromis, ils ont accès à tout le reste. L'outil idéal, alors, il y a des gestionnaires de mots de passe, comme LastPass, il y en a toute une série. En fait, le principe, c'est on va avoir un logiciel maître, un mot de passe maître, qui va ensuite donner accès en fait ou générer des mots de passe pour différents sites. C'est une bonne méthode, mais le seul truc, c'est qu'il faut avoir une certaine confiance envers ce logiciel, parce que si, comme pour la connexion via Google ou via Facebook, si votre logiciel est compromis, le reste va l'être aussi. Donc après, c'est une certaine confiance à avoir avec ce genre de logiciel. Mais après, moi personnellement, le meilleur logiciel de gestion de mots de passe, il est là. KeePass, mais bon, c'est un logiciel libre qui justement est le pendant de LastPass. Oui. Alors, je vais répéter la question. Actuellement, donc c'est entre 8 et 12, donc 10 caractères. Est-ce que avec les ordinateurs quantiques, on va avoir plus de puissance? Ben justement, c'est en référence au corollaire de la loi de Moore. Tous les 18 mois, un point. Tu doubles la puissance de calcul tous les 18 mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter, en plus de la, pour contrer justement cette loi de Moore, toutes les solutions que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire limiter le nombre d'essais, les mots de passe différents. Tu vas aussi avoir le changement. Tu vas changer, et surtout la double authentification qui est quand même, tu t'identifies, même si tu prends le premier truc, tu vas avoir sur toi ou à proximité quelque chose qui t'informe, qui te dit oui, quelqu'un a essayé d'accéder à tel site avec ton compte, est-ce que c'est toi? Tu réponds oui si c'est toi, si tu veux faire ta partie, ou non si c'est quelqu'un qui veut accéder à ton compte bancaire. Tous ces éléments-là sont là, non pas seulement pour ralentir, parce que le premier mot de passe arrête peut-être compromis, mais tu vas avoir une solution de repli qui va être justement de dire est-ce que c'est vraiment toi qui as lancé l'action. Alors, il pose la question de savoir si tous les sites faisaient de la double authentification pour justement lutter contre la loi de Moore. Le problème, c'est que tu as un volet qui est économique. La mise en place de la double authentification, ça nécessite l'envoi de SMS, même si c'est pas trop cher. Ça reste, tu as besoin de développer, tu as besoin d'envoyer le SMS. Si tu prends l'application Battle.net de chez Blizzard, c'est du développement à faire au niveau de l'application. C'est également du développement à faire au niveau de la transmission. Parce qu'il faut que tu sécurises quand même la chose, que l'autre ne t'envoie pas une notification pour l'autorisation, tu vois. Donc si tu veux, c'est vraiment le plus souvent, quand un site ne met pas cette double authentification ou ne permet pas certaines choses, la carte bleue, ils pourraient augmenter. Ça fait des années. Et pourtant, eux, au niveau monnaie, ils ont mis en place la double authentification, mais parce que ça a été forcé. Alors, est-ce que la loi oblige les gens à donner leur mot de passe lorsqu'ils sont mis à un examen? Je me souviens que non. Il y avait eu une proposition de loi, mais ça n'a pas été passé.
C'est carrément dans la Constitution. Vous avez un droit à la non-incrimination. Donc, le fait que vous passez un mot de passe veut dire que vous vous auto-incriminez. Donc, même les lois qui sont passées récemment, comme quoi on a obligation de passer ces mots de passe. Non, il y avait aussi de mettre les mots de passe, ça a été censuré. Ça, c'est... Donc, non, il n'y a aucune obligation. Et de toute façon, vous avez le droit de garder le silence et vous dites, ah ben, d'accord. Mais d'abord, je veux voir mon conseil, je veux voir mon avocat. Vous aurez la paix.
Je veux juste apporter un petit complément. En fait, ce qui est sorti de la proposition de loi qu'on a vu récemment, c'était effectivement, il y avait une idée dans le dernier projet de loi terrorisme d'obliger les gens que la police suspectait d'activités terroristes de fournir tous leurs identifiants sur tous les réseaux sociaux. Comme ça avait commencé à brancher, ils ont dit tout de suite non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas les mots de passe, uniquement les identifiants. Et vu que ça a vraiment continué à broncher, c'est-à-dire que des gens ont pris leur téléphone pour appeler les députés et leur dire ce truc est inacceptable, ça a sauté. Donc ça n'a jamais été voté. Par contre, il y a dans la loi française une obligation de fournir tout mot de passe qui permette de déchiffrer, d'accéder à des données dans le cadre d'une enquête judiciaire. Donc typiquement, si on chiffre son disque dur, il y a un cas actuel de quelqu'un, un jeune homme qui fournissait un service... en ligne et à qui on a demandé de fournir la méthode, donc le mot de passe pour déchiffrer son disque, puisqu'il était illisible sinon, et on l'a accusé. De ce fait, il y a une sanction prévue dans la loi pour ça. Mais comme le dit Xavier, par ailleurs, la Constitution dit qu'on n'a pas le droit de s'incriminer, enfin, on a le droit de ne pas s'incriminer. Donc il y a une contradiction, et tant que le Conseil constitutionnel n'aura pas... étudier cette loi pour dire si oui ou non elle est constitutionnelle, la loi est toujours là et on peut toujours être poursuivi pour ça.
De toute manière, comme le précise Xavier, c'est qu'au niveau européen, si ça part en décision, on est sûr que la Cour européenne invalidera complètement cette partie de la loi. D'autres questions ? Oui. Je vais répéter la question. C'était si on compromet notre boîte mail, est-ce que ça fera cascade sur les autres services ? Ça dépend. Parce que vous n'avez peut-être pas envoyé tous vos comptes sur la même boîte mail. Vous avez peut-être utilisé plusieurs boîtes mail, vous avez peut-être des comptes un peu partout. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la compromission d'une boîte mail c'est pas forcément en cascade. Ils ont cet identifiant-là. Ils ont accès à vos mails, mais est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer avec vérifier votre mot de passe? Ça dépend. Vas-y, Xavier.
C'est pas que vous. Le fait de contrôler votre email veut dire qu'on peut envoyer des emails à votre place. Mais surtout que l'on peut savoir à qui vous écrivez. Et moi, ça m'est arrivé tout récemment, il y a quelqu'un dans ma famille, son email a été compromis, et il a commencé à envoyer des emails à toute la famille en disant « J'ai un gros problème, je n'ai plus de téléphone, envoie-moi de l'argent au plus vite. » Donc le problème, il est là. C'est pas uniquement vous qu'on essaie de protéger, c'est aussi vos proches. Et c'est ça qui est important, en fait, dans la gestion de son identité. L'identité n'existe que par votre confiance. De même qu'une banque, on a confiance en elle que parce qu'elle a des gros coffres qui sont creusés, etc. Ce qui, objectivement, ne représente rien. Mais par contre, ce qui est extrêmement important, pourquoi il faut vraiment protéger ses adresses, son compte sur les réseaux sociaux et ses comptes e-mail, c'est pour ça. C'est qu'on peut faire le coup de la prisonnière espagnole à votre insu vis-à-vis d'autres personnes. Et vous aurez un mal fou à réparer ce problème-là. Parce que non seulement on vous dira « mais oui, mais c'est pas ma faute, je me suis fait pirater », est-ce que ces gens auront encore votre confiance après coup ? C'est ça qu'il faut réfléchir.
En plus, j'ai eu un cas dans ma famille, donc j'aurais pu y penser. Mais bon, un peu le stress. D'autres questions ? Ah non, non, justement. Ah non, justement, moi, dans mon cas, la phrase était parfaite. En bon français et tout. Même les gendarmes que j'ai contactés avec le membre de cette famille qui avait été victime de cette prisonnière espagnole, on a tous halluciné parce que elle était en français, orthographe, grammaire, était très bon. Et même connaissant la personne en question, c'était même surprenant. Donc,
Et l'autre exemple que l'on a vis-à-vis des entreprises qui se font le coup de l'attaque, ce qu'on appelle l'arnaque au PDG, le coup de fil de la personne impérative qui appelle une comptable d'un sous-service, etc. Des fois, ça marche très bien. On se dit, oui, c'est quelqu'un qui aura un accent, etc. Ce cliché raciste est faux. Et il faut bien se dire une chose, c'est que souvent, les gens qui nous arnaquent ne sont pas dans les d'autres pays. Souvent, ils sont dans nos propres pays, ils ont la même culture que vous. Et ce qui est impressionnant, c'est que ils connaissent très bien comment fonctionne l'entreprise parce qu'ils ont lu ces informations sur des réseaux professionnels comme LinkedIn et tout ça, et ça marche quand même. Donc il faut se dire une chose, c'est qu'on n'est jamais assez prudent et on n'est jamais assez méfiant, malheureusement.
Non, c'était par rapport au... Vous parliez des fautes d'orthographe dans les mails. En fait, je crois que c'est Microsoft qui avait fait une étude disant que, justement, il y avait des mails qui étaient faits exprès d'être plein de fautes parce que ça permettait de trier les gens qui, voyant ça, disaient « bon, c'est de l'arnaque ». Et donc de cibler plus spécifiquement les gens qui étaient susceptibles de répondre et de se faire avoir. Donc il y a des trucs qui sont écrits avec plein de fautes, c'est voulu.